La semaine de l'art.
Le magazine radio de la Tribune de l'Art.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de la Semaine de l'Art avec notre invité Henri Masson, qui est conservateur régional des monuments historiques à la DRAC Bretagne. Et j'ai rencontré Henri Masson récemment lorsque je suis allé à Rennes et que j'ai fait ce reportage que vous avez peut-être vu sur la Tribune de l'Art sur la cathédrale de Rennes et la restauration que j'ai trouvé à la fois très bien faite. Et les explications qui m'ont été données à la DRAC étaient tellement claires et tellement en ligne avec la Tribune de l'Art estime qu'il faut faire sur les monuments historiques, que j'ai tenu vraiment à inviter Henri Masson pour qu'il nous parle de tout cela. Donc bonsoir.
Bonsoir monsieur.
Vous êtes donc conservateur régional des monuments historiques. Nous reviendrons bien sûr sur cette fonction et sur ce que vous faites dans ce cadre-là. Mais j'aurais voulu savoir quel était votre parcours professionnel avant de devenir conservateur régional.
Alors, mon parcours à l'origine est un parcours d'architecte. J'ai fait des études à l'école d'architecture, d'abord à Nantes, puis à Versailles. Puis j'ai travaillé dans différents cabinets d'architectes à Paris et à Versailles. Ensuite, j'ai eu la chance de partir travailler à l'étranger pendant un an et demi en Tunisie, dans le domaine du patrimoine. Et donc, au retour de Tunisie, j'ai décidé de me spécialiser dans la restauration du patrimoine et j'ai passé l'examen d'entrée de l'école de Chaillot, qui m'a permis de me spécialiser dans la restauration au bout de 2 ans de formation. À l'issue de cet enseignement, j'ai travaillé dans différents cabinets d'architectes en chef des monuments historiques. Et puis j'ai passé le concours d'architecte urbaniste de l'État en 1998. Et donc après un an de formation à l'École nationale des ponts et chaussées, j'ai été nommé architecte des bâtiments de France dans la Sarthe.
Vous étiez architecte des bâtiments de France à partir de quelle date à peu près ?
En 1999. J'ai été nommé en avril 1999.
D'accord. Donc la Sarthe, ça comprend tout le département en fait ?
Voilà, absolument.
Et vous êtes resté combien de temps architecte des bâtiments de France ?
Alors, je suis resté de 1999 à 2005.
Oui.
Et en 2005, septembre 2005, j'ai été nommé conservateur régional des monuments historiques à la DRAC de Rennes.
Très bien. Alors nous reviendrons donc sur cette fonction que vous occupez depuis maintenant 9 ans à peu près. Mais c'est intéressant, nous n'avons jamais eu encore d'architecte des bâtiments de France dans cette émission. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel est le rôle exact des ABF, puisque vous travaillez maintenant, je suppose, avec les ABF ou l'ABF qui se trouve, les ABF qui se trouvent en Bretagne. Quel est le rôle des ABF par rapport à la DRAC?
Un ancien directeur du patrimoine avait cette jolie formule de dire que l'architecte des bâtiments de France était la sentinelle du patrimoine. L'architecte des bâtiments de France, il arpente le terrain au contact des élus, au contact des propriétaires, il visite les monuments et donc il est très au courant de leur état et c'est celui qui alerte l'administration pour dire ben voilà, telle église est en mauvais état, tel propriétaire m'a rencontré et qu'il souhaite faire des travaux. Voilà. Et donc c'est le premier élément de la chaîne patrimoniale de l'administration. Et puis évidemment, son rôle, c'est aussi beaucoup de surveiller les travaux qui se passent aux abords des monuments historiques, soit dans le périmètre de 500 mètres, soit dans les ZPPUP, zones de protection du patrimoine, AVAP ou secteur sauvegardé, où sa connaissance technique lui permet de conseiller les propriétaires dans les travaux qu'ils veulent entreprendre pour restaurer les bâtiments qui se trouvent dans ces secteurs.
Alors justement, donc il y a deux, parce que c'est vrai que sur la tribune-là, on parle souvent de l'aspect contrôle des AVAP, de toutes les zones de secteur sauvegardé. Il a deux rôles, évidemment, ce rôle de contrôle et un rôle également, vous dites, de prescripteur, mais il participe aux travaux.
Alors, il participe actuellement, les textes sont très précis. L'architecte des bâtiments de France est maître d'œuvre des travaux de réparation sur les monuments historiques appartenant à l'État et affectés au ministère de la Culture ou à d'autres ministères. Et par ailleurs, en réalité, cette mission de contrôle, elle est plus efficace lorsqu'on, le plus tôt possible, en amont, on peut conseiller le propriétaire. Donc, dès la naissance du projet, le rôle de l'architecte des bâtiments de France est donc d'apporter son expertise technique au propriétaire qui permet donc ensuite que le contrôle se fasse de manière fluide, on va dire.
Il y a un passage de témoin entre l'ABF à un moment donné et l'architecte du patrimoine ou l'architecte en chef des monuments historiques qui va réaliser la prise d'œuvre de la restauration, ou est-ce que parfois l'ABF va plus loin ?
Alors, dans certains cas, l'architecte des bâtiments de France va plus loin. Bon, peut-être qu'on aura l'occasion de parler ce soir d'un dispositif qu'on a mis en place en Bretagne d'assistance à maîtrise d'ouvrage au profit des propriétaires.
On en parlera, bien sûr.
Sinon, l'architecte des bâtiments de France, c'est un peu celui qui alerte. Et très pratiquement, si vous voulez, l'architecte des bâtiments de France me prévient en Bretagne lorsque il rencontre un problème sur un édifice, et nous rencontrons et nous discutons ensemble de la solution que nous pouvons apporter au problème qui est posé. Et nous donc suggérons aux propriétaires privés ou élus une manière de faire avec des travaux qui peuvent être des travaux de réparation, des travaux de restauration. Voilà, c'est un peu, chaque cas est un peu différent.
Très bien, donc les ABF, probablement qu'un jour j'inviterai un ABF encore en activité pour parler plus largement du rôle des ABF. Et c'est intéressant, je pense, de parler un peu plus des ABF, puisque leur rôle, finalement, est parfois mal compris ou mal connu. Quand je dis qu'il est mal compris, c'est mal compris parfois par des élus qui ont l'impression que l'ABF est là pour censurer. Or, ça se passe souvent bien, en fait, les ABF. Est-ce que vous avez eu beaucoup de conflits, vous-même, sans dire lesquels, parce que, bien sûr, vous avez un devoir de réserve, mais est-ce que vous avez eu beaucoup de conflits lorsque vous avez donné en tant qu'ABF vous avez refusé certaines choses, ou est-ce que finalement certains maires, j'ai l'impression que certains maires en tout cas le disent, en s'appuyant sur vous, ça leur permet de dire à leurs administrés, voyez, on ne peut pas tout faire, et c'est finalement une aide contre la pression de l'électeur.
Aujourd'hui, des acteurs de l'aménagement, de l'urbanisme, des constructions neuves, ce sont les élus qui ont la compétence en matière d'urbanisme, quelquefois aidés par l'État. Et donc, il est très important que l'État puisse apporter cette expertise et conseiller les maires, et même si les discussions ne sont pas toujours simples et évidentes, avec les maires comme avec les propriétaires, moi je me souviens effectivement de cas quelquefois un petit peu difficiles, mais je n'ai jamais eu de propriétaires qui, a posteriori, reviennent sur une discussion qu'on a eue et me le reprochent. Je crois que la chance aussi que nous avons, c'est d'avoir un petit peu de recul par rapport aux problèmes qui sont posés par le propriétaire. Il faut être à l'écoute de leurs problèmes, mais parfois on a des solutions auxquelles ils n'avaient pas songé, qui sont des solutions plus simples, souvent moins coûteuses, et qui naissent en fait dans le dialogue avec le propriétaire.
D'accord. Alors, conservateur régional des monuments historiques, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'il y a beaucoup de conservateurs, on parlera peut-être à un moment donné des conservateurs des antiquités et objets d'art, il y a les conservateurs des monuments historiques, il y a le conservateur régional des monuments historiques. Finalement, vous n'avez pas une formation, vous n'avez pas passé le concours de conservateur, vous n'êtes pas conservateur au sens où on entend pour les musées. En revanche, donc c'est un titre. Quel est le rôle du conservateur régional des monuments historiques ?
Alors, le conservateur régional des monuments historiques est un chef de service de l'administration du ministère de la Culture, qui dépend donc du directeur régional des affaires culturelles, qui est le représentant du ministère de la Culture dans la région. Le directeur régional des affaires culturelles étant lui-même placé sous l'autorité hiérarchique du préfet de région. Donc la DRAC est composée d'un certain nombre de services qui correspondent aux différents champs d'action du ministère de la Culture, la musique, la danse, le théâtre, les musées, l'architecture, les arts plastiques, etc. Et dans les DRAC, il y a deux gros services, le service régional de l'archéologie et le service de la conservation régionale des monuments historiques. Donc, par exemple, pour la Bretagne, ça représente à peu près 15 personnes.
Et la conservation.
La conservation régionale, quand la DRAC représente, on va dire, entre 100 et 110 personnes, compris les services territoriaux d'architecture du patrimoine, qui sont donc les services des architectes des bâtiments de France.
Qui donc ne dépendent pas de... C'est un autre service.
Ils dépendent administrativement du DRAC, depuis 2010. Alors, la conservation régionale, pourquoi conservateur régional ? En réalité, c'est le titre du chef de service. Les missions du service, en fait, sont de quatre ordres. La première mission, c'est la protection, c'est-à-dire... en fin de compte, l'examen des demandes de protection qui nous sont faites, l'instruction des dossiers, la constitution des dossiers, la présentation des dossiers en commission régionale du patrimoine et des sites et en commission nationale des monuments historiques, le cas échéant. La deuxième mission, c'est ce qu'on appelle le contrôle scientifique et technique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un édifice est inscrit ou classé, l'État a un droit de regard sur les travaux qui s'y déroulent et doit veiller à ce qu'il soit véritablement de nature à permettre la conservation de l'édifice, puisque c'est la mission que la loi nous assigne. Donc la deuxième mission, contrôle scientifique et technique. La troisième mission, c'est la programmation. Nous sommes chargés de programmer les crédits de l'État affectés à la restauration des monuments historiques. Et la dernière mission, c'est les travaux, la restauration, puisque nous sommes maîtres d'ouvrage des travaux sur les monuments historiques appartenant à l'État, affectés au ministère de la Culture ou à d'autres ministères dans le cadre de protocoles.
D'accord. Alors, on va revenir progressivement sur toutes ces missions. Est-ce que vous pouvez dire par qui vous êtes aidé dans ces missions ?
Alors, nos services sont des services, donc, comme je l'ai expliqué, petits, puisque nous sommes une quinzaine,
oui.
Mais qui comprennent une très forte expertise, puisque nous, dans le service, je crois qu'il y a 9 ou 10 personnes de catégorie A. Donc, parmi lesquelles...
Catégorie A, rappelez pour ceux qui ne sont pas forcément...
Disons que c'est les catégories d'encadrement de la fonction publique. Donc, en Bretagne, j'ai une adjointe donc, qui suit un certain nombre de dossiers, en particulier beaucoup la programmation des crédits. 2 conservatrices des monuments historiques, donc, qui sont d'anciennes élèves de l'Institut national du patrimoine, qui, elles, sont finalement l'autorité scientifique du service qui coordonne en fait ce qu'on appelle le contrôle scientifique et technique dans lequel interviennent les architectes des bâtiments de France, l'inspection générale des monuments historiques, le service régional d'archéologie, etc. Nous avons aussi des ingénieurs du patrimoine et des services culturels qui eux conduisent les opérations de maîtrise d'ouvrage sur les monuments appartenant à l'État et qui sont très expérimentés. Et nous avons des chargés d'études documentaires donc, qui, eux, sont chargés de l'instruction des dossiers de protection au titre des monuments historiques. Et puis, donc, des personnes qui ont des fonctions administratives et financières donc, qui suivent les opérations sur le plan réglementaire et sur le plan financier.
Alors, parlons d'abord de la protection, puisque finalement, c'est la première des missions que vous avez citées. J'ai parfois le sentiment, je ne suis pas le seul, que la France est sous-protégée, c'est-à-dire que les monuments historiques en France sont sous-protégés, finalement qu'il n'y a pas beaucoup de protection, et qu'il y a en particulier beaucoup de monuments qui mériteraient de l'être, qui ne le sont pas, et que chaque année on protège, mais qu'on protège finalement trop peu, qu'il y a un certain malthusianisme. Mon impression, je ne sais pas si c'est à quoi ça correspond à votre expérience, c'est peut-être que c'est différent suivant les DRAC, c'est que le ministère de la Culture aurait un peu peur qu'on protège trop, parce que si on protège, après, on considère qu'on doit subventionner, et donc ça peut poser problème. Moi, je vois, alors pas forcément en Bretagne, que je ne connais pas très bien, mais je connais, et je souhaitais faire, je le ferai peut-être un jour, une série sur des monuments historiques qui ne sont pas protégés, alors qu'ils devraient l'être, mais devraient être de manière évidente. Je pense, par exemple, à 2 hôtels de Pierre-Adrien Paris à Orléans, qui ne sont pas protégés aux monuments historiques, qui ne sont même pas inscrits. Je pense à un château qui est en péril d'ailleurs, un château 18e avec superbe en Normandie, qui devrait être protégé historique. Il y en a beaucoup. Donc est-ce qu'il n'y a pas un certain malthusianisme justement de la protection ?
Alors, je dirais que dans le travail de protection, nous avons une part, comme de l'administration, nous sommes sollicités par un certain nombre de citoyens qui sont soit des propriétaires, qui sont soit des membres d'associations, soit des élus.
N'importe qui. Est-ce que moi, par exemple, je peux vous solliciter pour protéger un bâtiment en Bretagne ?
Oui, vous pouvez. Et dans ce cas-là, je vous réponds.
Oui.
Et j'instruis la demande.
Alors, vous instruisez la demande. Moi, j'avais demandé la protection d'un bâtiment qui était d'ailleurs menacé. C'était un peu un geste, j'allais dire, militant. Je ne sais plus où c'était, peu importe. D'ailleurs, je ne vais pas prendre d'exemple parce que je ne veux pas du tout vous mettre en porte-à-faux par rapport à vos confrères. Et on m'avait répondu, renvoyez-nous. On m'avait envoyé 2 ou 3 ou 4 pages. Je voulais faire un article, je ne l'ai pas fait, mais je le ferai peut-être un jour. C'était à moi, en fait, de dire l'historique, de dire, etc., de répondre. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous faites ou pas ?
Alors, le Code du patrimoine impose, en effet, que le propriétaire, enfin, la personne, le citoyen qui interroge l'administration, porte à la connaissance de l'administration les raisons pour lesquelles ce bâtiment présente un intérêt. Donc, en réalité, en effet, le demandeur doit fournir des éléments pour argumenter sa demande.
Oui, mais parfois, un bel hôtel particulier du XVIIIe siècle avec quelques photos, ça suffit pour argumenter la demande. Après, peut-être qu'on peut dire qu'on ne peut pas le protéger. Mais de là à demander quand est-ce qu'il a été construit, d'aller faire des recherches en archives, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et c'est peut-être le rôle de la DRAC, non ?
Non, alors, en effet, il n'est pas question de demander des recherches en archives, d'ailleurs. Bon, pour vous rassurer, si j'ose dire, je peux vous affirmer que nous répondons à toutes les demandes.
D'accord.
Qui nous sont faites. Mais vous imaginez que quelques-unes sont fantaisistes
bien sûr,
ou informées.
Bien sûr, bien sûr,
et donc
bien
notre travail, c'est aussi en discussion avec, avec les demandeurs, de leur expliquer quelles sont les raisons qui font que tel dossier va pouvoir, a une chance de pouvoir être examiné en délégation permanente de la commission, ou au contraire, voilà, les raisons qui font que, bah, par exemple, il a perdu son authenticité, ou, voilà, ou que, peu importe. Voilà, donc c'est notre travail, c'est de l'expliquer, voilà, quelles sont les chances que ce bâtiment a d'être un jour protégé ou non. Et donc, voilà, donc il faut savoir qu'une part importante de notre travail de documentation consiste à répondre aux demandes qui nous sont faites. Néanmoins, il nous semble important de définir des stratégies. Il nous semble que l'État a un rôle de pilote en matière de protection. Et donc, au-delà des demandes qui nous sont faites un peu au fil de l'eau, nous, tous les ans, nous animons une commission régionale du patrimoine et des sites thématiques. Alors, par exemple, en 2006, nous avons animé une commission régionale sur les châteaux du 19e, parce que nous avions beaucoup de demandes qui nous avaient été faites, nous n'avions pas d'éléments de référence. Nous avons, à ce moment-là, commandé au service régional de l'inventaire une étude exhaustive sur les châteaux du 19e siècle en Bretagne, et à l'issue de cette étude, une sélection a été établie par nos collègues du service de l'inventaire, que nous avons examiné en commission délégation permanente, et nous avons retenu les 30 ou 40 édifices qui nous paraissaient les plus remarquables, que nous avons examinés en commission régionale, et nous avons donc protégé, je crois, 28 édifices parmi les monuments historiques.
Où est-ce qu'on peut lire, par exemple, les résultats de cette étude? Est-ce que cette étude, qui doit donc être assez documentée sur les châteaux 19e siècle en Bretagne, on peut la trouver quelque part? Et où est-ce qu'on peut trouver cette liste, par exemple, des châteaux? Elle s'était publiée dans Monumental ou ailleurs ou...
Elle a été publiée dans Monumental, un peu au gré des actualités des protections.
Monumental étant la revue de la revue de la direction du patrimoine.
Absolument. Et par ailleurs, donc, l'étude qui a été faite par le service de l'inventaire, c'est nous, service des monuments qui l'avions commandé, donc nous en sommes détenteurs. Je crois qu'on peut la trouver sur le site de l'inventaire auquel on entre par le mot GLAD.
GLAD, c'est-à-dire ?
C'est le nom du portail du service régional de l'inventaire de Bretagne.
D'accord, bah ça, voilà, le genre de choses qui est intéressante à savoir, que je n'ai pas forcément... je mettrai le lien
sur... Je vous donner d'autres exemples de campagnes thématiques. Il y en a une qui nous a beaucoup intéressé, c'était la campagne qu'on a organisée en 2007 à l'occasion du 3e centenaire de la mort de Vauban. On a protégé un centre d'édifices construits par Vauban ou par ses successeurs sur les côtes bretonnes. En 2010, nous avons fait une campagne dans 2010, 2011, 2012 de protection des phares, puisque c'est un domaine qui n'était pas du tout protégé. Et nous avons conduit en commission nationale 12 phares en Bretagne. Voilà. Donc, vous voyez, au-delà donc, des réponses que nous faisons aux citoyens, tous les ans, nous avons une commission thématique. Mais pour répondre un peu à votre question, notre politique est que la protection ne peut pas être une contrainte que nous imposons aux propriétaires. Et il arrive que des sujets sur lesquels tout le monde est d'accord pour dire qu'ils méritent une protection... ne rencontre pas une adhésion du propriétaire, et notre politique à nous, c'est d'attendre que le propriétaire soit d'accord pour que les choses se fassent. Parce que par expérience, nous constatons que lorsqu'on fait une protection autoritaire, la suite logique, c'est-à-dire la restauration, la réparation, ne se font pas si on n'arrive pas à être d'accord avec le propriétaire. Voilà. Donc, si vous voulez, je donne un exemple. On a tout récemment protégé le clubhouse du golfe de Dinard, que nous avions passé en commission régionale en 2008, et on a obtenu l'accord du maire et des propriétaires en 2014. On a attendu 6 ans, mais on sait maintenant que tout le monde est d'accord et que tout le monde y voit son intérêt, et ça nous paraît beaucoup plus intéressant que de le faire sous la contrainte.
Je suis d'accord avec vous, effectivement. En revanche, ça peut arriver qu'il y ait besoin de contraintes si un bâtiment est en péril grave ou est menacé et que le propriétaire ne veut pas le protéger. Et donc là, vous pouvez faire des classements d'office. Ça arrive ? C'est arrivé chez vous sous...
Pour ma part, j'ai connu une seule opération de classement d'office, mais qui était un peu particulière, qui concernait un alignement qui a été découvert dans le Morbihan, un alignement mégalithique qui a été découvert dans le Morbihan sur un secteur qui était prévu d'être transformé en lotissement. Voilà. C'est le seul classement d'office que j'ai connu. Et sinon, je pense qu'il faut user de la salive, passer du temps avec les propriétaires pour les convaincre de l'intérêt de la protection. Et mon expérience me montre qu'on y arrive à peu près toujours.
D'accord. Très intéressant ça. Donc, les restaurants. Alors, l'inscription, le classement. L'inscription, donc, c'est un classement moins fort, j'allais dire, ou le classement a une inscription plus forte. On a parfois. Alors, c'était pas ça au départ, je pense, mais c'est vrai que l'inscription, parfois on inscrit avant de classer.
Toujours. On inscrit toujours.
Systématiquement maintenant. Oui. Et alors, c'est nouveau ça, c'est pas dans la loi, c'est pas dans la loi du patrimoine, c'est pas dans le code du patrimoine.
Si, c'est dans le code du patrimoine.
C'est dans le code du patrimoine. Ouais.
Si vous voulez, en réalité, la loi qui institue le service de l'immobilier maîtrisé que vous connaissez aujourd'hui, c'est la loi de 1913.
Ouais.
Et elle institue donc le classement parmi les monuments historiques. Et elle institue aussi l'instance de classement. Voilà. Et donc qui reprend finalement la tradition du XIXe siècle, des listes, les premières listes de Mérimée, etc. Et en 1924, si je ne m'abuse, on a imaginé un système intermédiaire qui devait rester intermédiaire, qui était l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sur lesquels on pouvait inscrire plus rapidement les édifices dans l'attente de leur classement. Et en réalité, c'est devenu une protection à part entière. Un nouveau code du patrimoine et surtout la nouvelle réorganisation de l'État, et en particulier l'institution dans un premier temps des coreffets puis des CRPS, a permis que la décision d'inscription se fasse au niveau régional. Alors que jusqu'aux années 82 ou 83, les décisions d'inscription des classements étaient prises uniquement en commission nationale des monuments historiques, commission supérieure à l'époque. Voilà. Donc depuis la décentralisation, si vous voulez, l'organisation actuelle des DRAC, c'est la commission régionale qui propose au préfet de prendre un arrêté d'inscription parmi les monuments historiques et qui propose éventuellement, si elle le juge nécessaire, l'examen en commission nationale qui permettra le classement parmi les monuments historiques, après donc avis de la Commission nationale et signature de l'arrêté par la ministre de la Culture.
Il arrive qu'il y ait un classement d'office sans inscription, donc le classement est quand même encore possible.
Le classement d'office est toujours possible, bien sûr.
Et il n'arrive jamais qu'un bâtiment au niveau, par exemple au niveau du ministère de la Culture, des services centraux, on décide de classer directement, ça n'arrive pas ça, c'est pas possible. C'est peut-être je pense que c'est la procédure qui fait que finalement l'inscription précède le classement, mais est-ce qu'il est... Est-ce qu'il est vraiment impossible de classer d'un coup ?
Ça, je comprends pas. Tout à fait possible de classer d'un coup, mais la procédure habituelle veut que le dossier passe d'abord en commission régionale. Et bon, aujourd'hui, c'est des procédures que nous observons avec rigueur pour éviter les recours ultérieurs, pour qu'on évite de nous dire que nous n'avons pas respecté les procédures et que les inscriptions ne sont pas valables. Mais vous avez raison, en réalité, la ministre et donc, la Commission nationale des monuments historiques peut se saisir d'un dossier à sa convenance.
Alors, vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question sur le malthusianisme. Vous avez dit que vous ne forciez pas la main. Effectivement, on peut comprendre que si ça marche, vous avez raison de persuader, c'est toujours mieux. Mais vous pourriez essayer de persuader plus de gens, peut-être. Alors, peut-être pas vous, mais peut-être qu'on a l'impression quand même qu'il y a assez peu de protection, finalement, monuments historiques. Je vais de classement, alors peut-être qu'il y a plus d'inscriptions.
Il y a, je crois, eu des périodes, effectivement, où il y a eu beaucoup de classements et beaucoup d'inscriptions. Il y a eu des périodes. Bon, il y a eu dans les années 40 beaucoup d'inscriptions. Il y a eu dans les années 80 beaucoup d'inscriptions et de classements. Aujourd'hui, je pense que les critères de protection sont plus exigeants qu'ils ne l'étaient par le passé. Aujourd'hui, on insiste beaucoup sur l'authenticité d'un bâtiment, sur sa cohérence, alors qu'à une certaine époque, encore assez récente, on pouvait très facilement envisager une protection partielle d'un édifice. Un édifice
15e remarquable qui avait été transformé au 19e,
on pouvait protéger les éléments du 15e séparément. Aujourd'hui, on a beaucoup plus une vision d'ensemble de la protection, et donc on cherche à avoir un ensemble cohérent, même si différentes strates historiques s'y superposent. Et par exemple, aujourd'hui, on envisage beaucoup les protections des parcs, par exemple des châteaux, ce qui n'était pas du tout le cas autrefois. Aujourd'hui, on considère qu'un parc, une allée cavalière, conduit dans une perspective au château, participe à l'architecture, et donc nous avons une protection beaucoup plus large qu'elle ne l'était par le passé.
Alors le conseil scientifique et technique, maintenant, expliquez-nous ce que c'est. De manière plus détaillée, vous l'avez un petit peu évoqué, mais d'abord, avant, la situation d'avant, il n'y a pas si longtemps, c'était la maîtrise d'ouvrage. Vous faisiez directement la maîtrise d'ouvrage. Mais je n'arrive pas à comprendre comment... alors vous avez certainement plus de moyens, mais enfin, la maîtrise d'ouvrage est extrêmement lourde. Elle a été transférée au propriétaire, ce qui me semble, sur certains plans, poser problème, parce que derrière, il faut après faire ce contrôle. Mais comment faisiez-vous pour faire la maîtrise d'ouvrage ? Et maintenant, quel est votre rôle, à la fois conseil scientifique et technique, et puis, comme vous disiez, assistance à la maîtrise d'ouvrage, qui est un peu particulier, je crois, à la Bretagne ?
Alors, en effet, jusqu'en 2009, l'État était maître d'ouvrage des travaux sur les monuments historiques classés. C'est-à-dire que le propriétaire, qui voulait faire des travaux, public ou privé, venait voir le conservateur régional en lui disant « Voilà, monsieur, je voudrais refaire ma couverture. » il lui donnait la clé de sa maison, il lui donnait la part qui lui revenait, qui revenait à sa charge, c'est-à-dire 5%, 10%, et c'était l'État qui, en effet, avec sa conservation régionale, conduisait, pour le compte du propriétaire, la restauration. Et corollaire de ces dispositions, qui sont contenues dans la loi 13, qui est une loi très forte, qui finalement explique que la restauration des monuments historiques, c'est tellement important que seul l'État peut le faire. C'est pas la possibilité du propriétaire. C'est la raison de cette loi. Voilà. Seul l'État peut le faire. Et donc, non seulement l'État était maître d'ouvrage, mais l'État était maître d'œuvre, puisque lorsque l'État apportait une subvention, c'était obligatoirement l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétents qui était maître d'œuvre de ces travaux. Alors, ces choses ont beaucoup évolué en 2009, puisque le pseudo-monopole des architectes en chef a été aboli, si on peut dire, et la maîtrise d'ouvrage a été rendue au propriétaire. Alors évidemment, quand on est maître d'ouvrage et maître d'œuvre à la fois, c'est pas compliqué d'assurer le contrôle scientifique et technique, parce qu'on est à la fois celui qui commande et celui qui fait. Alors, c'est difficile de ne pas s'autoriser soi-même. Alors que depuis que les propriétaires ont repris la maîtrise d'ouvrage, en effet, nous avons à donner notre avis sur le choix de leur architecte, sur la consistance des travaux, et donc de nous assurer, puisque c'est notre mission, que ces travaux sont bien de nature à conserver l'édifice. Alors comment ça se fait dans la pratique ? La conservation régionale est en fait constituée, si vous voulez, un collège, qui est constitué des spécialistes locaux ou parisiens ou spécialisés. Donc, ils sont par exemple les architectes des bâtiments de France, qui peuvent être l'inspection générale des monuments historiques, qui peuvent être les services de l'archéologie, parce qu'on a souvent, lorsqu'on restaure un monument historique, une question d'archéologie qui se pose, qui peuvent être, le cas échéant, lorsque nous examinons un projet de restauration d'un bateau, un spécialiste de l'architecture navale en bois, par exemple. Et donc, notre mission à nous, c'est de prendre les avis autorisés de l'ensemble des personnes qui ont un avis à donner sur ce sujet et d'en faire la synthèse que nous transmettons aux propriétaires. Et donc, ce travail est coordonné par les conservateurs des monuments historiques.
Mais alors, vous donnez donc des conseils, mais ces conseils, est-ce qu'ils sont suivis ? Si vous n'êtes pas d'accord avec des choix qui sont pris par le propriétaire, est-ce que vous pouvez le dire ? Est-ce que vous pouvez les empêcher ? Si un propriétaire dit, j'avais un toit en tuiles, je vais le faire en ardoise, je dis n'importe quoi, je vais le faire, ça va être moins cher, plus cher, je ne sais pas, peu importe, l'un ou l'autre, est-ce que vous pouvez dire non ? Et est-ce que vous pouvez l'interdire ? Ou est-ce que finalement, vous êtes juste là pour conseiller, ce qui est quand même peut-être problématique dans le cas de la conservation d'un bâtiment ?
Alors, la clé de la réussite du contrôle scientifique et technique, c'est d'être le plus en amont possible. C'est-à-dire que dès lors que le propriétaire souhaite faire des travaux, il faut qu'on se rencontre et que nous lui fassions part de notre connaissance de l'édifice, quelquefois qui est aussi bonne que la sienne, et puis notre connaissance des techniques traditionnelles, parce que la plupart du temps, quand on refait, si vous voulez, par exemple, une couverture sur un édifice, si c'est une couverture faite en ardoise au clou, on la refait tous les 100 ans. Ce qui fait que celui qui l'a fait ne l'a jamais fait déjà dans sa vie. Donc, nous, notre rôle, c'est de le conseiller, de lui indiquer quelles sont les techniques qui doivent être mises en œuvre. Et moi, j'avoue que je n'ai pas connaissance aujourd'hui de conflits durables. Ça ne veut pas dire qu'on soit toujours d'accord, parce qu'il y a toujours un moment où il faut discuter, mais je n'ai pas connaissance de conflits qui se soient faits au détriment du propriétaire et surtout du monument.
D'accord, donc vous n'avez pas d'escalade. Parce que moi, la question que je me pose souvent, alors, encore une fois, si je vous ai invité, c'est que j'ai eu l'impression que votre DRAC fonctionnait particulièrement bien, mais j'ai parfois l'impression, et encore une fois, je ne donnerai pas d'exemple, qu'on va dans certains endroits et que la DRAC, pour une raison X ou Y, est absente, parce qu'elle n'a pas forcément d'ailleurs les moyens de venir. Alors vous nous direz un peu vos moyens, est-ce que vous arrivez à tout superviser ? C'est quand même assez important. Donc le propriétaire qui ne connaît pas, qui ne sait pas effectivement comment refaire son toit, parce qu'il ne l'a jamais fait, et puis parce que c'est pas son métier de restaurer un monument historique, et maître d'ouvrage, mais il ne sait pas quoi faire. Il a en face de lui un architecte du patrimoine, souvent un architecte en chef des monuments historiques, qui, cela arrive, il a envie de faire un chantier selon ce qu'il souhaite faire, qui n'est pas toujours, on peut le dire, on a beaucoup d'exemples, moi j'ai beaucoup d'exemples en tout cas, des fois c'est assez discutable, en tout cas ça mériterait d'être discuté, et finalement l'architecte en chef dit il faut faire ça, le propriétaire est devant, il dit ok on va faire ça, le contrôle technique ne suit pas parce qu'il n'y a pas forcément la possibilité de le suivre au jour le jour. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Parce que ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre est faite par la même personne, mais là, c'est une seule personne, c'est l'architecte en chef, ou alors un architecte, qui va venir, qui va faire toute la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Et il n'y a pas de contrôle, finalement. Est-ce que ça arrive? Alors, vous allez me dire que ça n'arrive pas chez vous, et je vous croirais volontiers, en plus, parce que, encore une fois, j'ai cru comprendre que vous aviez une politique qui était plutôt bien, et que vous aviez, finalement, vous étiez assez content des effectifs que vous aviez, et que vous aviez des moyens. Mais ça arrive, ça. Est-ce que vous pensez que ça arrive, ou est-ce que je me trompe?
C'est aussi notre rôle de conseil du maître d'ouvrage de ne pas non plus laisser le maître d'œuvre prendre sa place. Parce qu'on ne peut pas à la fois commander les travaux et les exécuter. Donc, quel que soit le maître d'œuvre concerné, c'est notre rôle à nous, le moment venu, de dire au maître d'ouvrage, ben, c'est vous qui avez décidé. Hein, et c'est ça l'objectif finalement de cette évolution réglementaire dont je parlais tout à l'heure, de rendre la maîtrise d'ouvrage au propriétaire. Il s'agit que ce soit le propriétaire qui décide. Mais pour qu'il puisse décider, il faut qu'il soit éclairé. Et voilà, c'est précisément ce que nous avons à faire. Alors, je ne dirais pas qu'il n'y a jamais de conflit, mais voilà, je pense que ce qui est important, c'est que les rôles soient très précisément définis, qu'il n'y ait pas de vide. Parce que s'il y a un vide, effectivement, on a des débordements d'un acteur ou d'un autre. Mais ce que vous dites sur les architectes, ça pourrait être aussi le cas avec les entreprises. Une entreprise pourrait très bien préconiser à un propriétaire des travaux qui seraient superfétatoires ou inappropriés. Mmh. Et nous, c'est aussi notre rôle d'expliquer au propriétaire que là, voilà, ben, ça, c'est des travaux qui ne sont pas justifiés sur cet édifice.
Théoriquement, l'entreprise, l'entreprise doit être contrôlée normalement par l'architecte qui est maître d'œuvre. Le maître d'œuvre doit être contrôlé par le propriétaire qui est maître d'ouvrage, et quelque part vous contrôlez le maître d'ouvrage aussi, enfin, et puis vous êtes un pied pour tout le reste.
Voilà. On aide le propriétaire à conduire son chantier.
Quelle différence avec l'assistance à maîtrise d'ouvrage? Alors, vous m'avez dit lorsque je suis venu en Bretagne que, contrairement à beaucoup de DRAC qui n'ont pas forcément les moyens de le faire, je ne sais pas pourquoi, mais vous faisiez de l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui va plus loin que le conseil scientifique et technique.
C'est deux choses différentes, parce que le contrôle scientifique et technique, c'est notre mission régalienne. Donc ça nous est imposé, c'est notre raison sociale, si vous voulez. Mais on se rend compte que depuis que l'État a rendu la maîtrise d'ouvrage aux propriétaires, beaucoup de propriétaires sont démunis, voire désemparés, devant la complexité d'une opération de restauration. Je citais tout à l'heure, une réunion où j'étais au ministère, le cas de l'église de Canivelle où j'étais mardi dernier avec l'architecte des bâtiments de France. Je crois qu'il y a 420 habitants à Canivelle. Et le maire a une étude qui chiffre les besoins de travaux à plus d'un million d'euros. Aujourd'hui, la secrétaire de mairie travaille deux ou trois demi-journées par semaine à la mairie. Elle s'occupe de la cantine, de la ramassage scolaire, des problèmes sur les routes, des problèmes sociaux, etc. Il n'est pas pensable qu'elle soit un jour formée à restaurer ses travaux, à restaurer cette église, sachant que, comme je le disais tout à l'heure, c'est des travaux qu'on fait tous les 100 ans. Et donc, voilà, on a des élus, des propriétaires, des services qui sont démunis. Et nous, nous sommes dit, finalement, nous qui avons l'expérience de la maîtrise d'ouvrage, parce que nous l'avons conduite sur d'autres monuments pendant de nombreuses années, et nous continuons à le faire sur les monuments d'État, nous avons des compétences au sein du service qui sont celles des ingénieurs et des techniciens des services culturels, que nous pourrions finalement mettre à profit de ces propriétaires pour les aider à lancer ces opérations. Par exemple, première opération d'un propriétaire sur un monument historique classé, c'est choisir un maître d'œuvre. Bon, c'est une procédure assez complexe, qui est soumise à autorisation d'un DRAC, qui doit obéir au code du patrimoine. Voilà, un maire ne peut pas aujourd'hui, un maire d'une petite commune ne peut pas maîtriser ces opérations. Donc il nous a semblé nécessaire, pour permettre la conservation du patrimoine, de mettre en œuvre ce dispositif que nous avons mis en place à titre expérimental en 2007, à la demande du préfet de région Bretagne, qui était à l'époque M. Jean Daubigny, aujourd'hui préfet de région Île-de-France, et que nous avons ensuite poursuivi au cours des années. Et d'ailleurs, en 2009, un décret a institué en fait cette possibilité pour les services d'apporter cette assistance.
Avec quels moyens alors? Parce qu'il faut des moyens pour faire ça.
Les moyens, je dirais, c'est l'expertise des ingénieurs de la conservation régionale.
Je parlais bien sûr, mais je parlais en termes de temps.
Alors, en effet, une mission qui nous occupe beaucoup, d'autant plus que nous devons nous caler sur le rythme des collectivités, parce que principalement, nous faisons cette mission pour des collectivités. C'est-à-dire que il arrive aux ingénieurs d'aller au conseil municipal à 8 h du soir, au fin fond de la Bretagne, pour aller expliquer le projet aux élus, au conseil municipal. Donc c'est un investissement humain très important, mais je dirais que dont nous sommes payés en retour par la satisfaction que nous avons de voir ces projets naître, puis aboutir, et dont nous avons conscience que si nous ne faisions pas cet effort, ils n'aboutiraient pas.
Alors, justement, moi je suis assez admiratif de cela, et je pense que c'est vers ça qu'on doit aller, parce que, comme je le disais, les maires ou les propriétaires ne sont souvent pas capables de faire ça, et vous l'avez bien expliqué, c'est très compliqué de remplir. Moi j'ai vu des dossiers qu'on doit remplir quand on est maître d'ouvrage, je ne saurais pas le faire, enfin voilà, donc c'est vraiment un métier. Mais vous m'avez dit aussi que la plupart des autres DRAC ne font pas cela. Alors, est-ce que ce n'est pas problématique, justement ?
Je me suis bien gardé de dire que les autres DRAC ne le faisaient pas. Mais je disais qu'en tout cas, en Bretagne, nous le faisons.
Oui, et que c'est vrai, vous n'avez pas dit ça, mais vous étiez
très... Je ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté,
voilà,
de la frontière.
Je demanderai, en fait, j'inviterai certainement d'autres DRAC à ce micro qui pour nous expliquer comment elles font.
Mais c'est vrai que les DRAC ont connu ces dernières années quelques bouleversements. Comme toutes les administrations, elles subissent aussi des diminutions de postes. Les choix des DRAC ont pu être ceux qu'ils sont. Et voilà, chaque service est particulier. Nous, il nous a semblé, et j'ai eu la chance de réussir à convaincre les différents directeurs régionaux en Bretagne, il nous a semblé que c'était une mission fondamentale pour la mission de la conservation, puisque notre service s'appelle la conservation des monuments historiques. Notre mission fondamentale, c'est la conservation. Et les différents DRAC que nous avons eu en Bretagne ont tous adhéré à ce projet. Et donc, m'ont permis, et je les en remercie d'ailleurs, de disposer des moyens humains pour assurer cette mission. Et je dirais que le deuxième élément, effectivement, c'est aussi l'enthousiasme des agents, des ingénieurs, qui en effet se démènent pour que ces opérations puissent se faire.
Alors parlons maintenant de la programmation. La programmation, ça veut dire quoi ?
La programmation, c'est en fait prévoir les besoins en matière de restauration qui vont voir le jour dans les mois ou dans les années qui viennent, demander les crédits, comment estimer les besoins, les traduire sur un plan financier, demander à notre administration centrale les crédits, et ensuite engager des opérations au fur et à mesure qu'elles sont prêtes.
Alors, justement, par rapport à ça, donc la programmation, c'est de dire on va faire ce que vous dites, hein, tel chantier, ça. Et donc on a besoin d'argent, le budget c'est un peu le nerf de la guerre, et vous m'aviez agréablement surpris en disant que vous n'aviez pas, certains se plaignent qu'il n'y a pas suffisamment d'argent sur les monuments historiques, et vous dites que vous n'avez pas de problème de budgétaire, et vous l'avez prouvé en tout cas sur la cathédrale de Rennes, puisque souvent, quand on restaure un bâtiment de cette taille-là, on en fait une petite partie, on en fait... Enfin, c'est souvent extrêmement décousu, ce qui est très nuisible à mon avis au monument, et vous avez une approche que je trouve très bonne, on dit on restaure un monument, et sur 4, 5, 6 ans, 7 ans, vous restaurez un monument complètement, comme vous avez presque terminé à Rennes. Donc comment est-ce que vous faites pour ne pas avoir ces problèmes de financiers ?
Alors, il faut dire qu'on a eu beaucoup de chance, et je vous avoue, rétrospectivement, 6 ans presque après le début des travaux, qu'au moment où nous avons commencé cette restauration de la cathédrale de Rennes, nous n'imaginions pas que nous pourrions avoir la chance d'aller jusqu'au bout. Mais je voudrais aussi, si vous voulez bien, tordre le cou à l'idée répandue que j'entends beaucoup, et que mes collègues d'ailleurs dans d'autres régions entendent aussi, qui est de dire que l'État n'a plus d'argent. Je regrette au contraire, je suis heureux de pouvoir dire que l'État, pour l'État, l'entretien et la restauration des monuments historiques comptent, et nous avons un budget très confortable au ministère de la Culture, qui est réparti entre les différents établissements publics et DRAC, et je crois que si vous interrogez tous mes collègues en France, ils pourraient vous dire qu'ils ont les crédits qu'ils demandent. Donc, c'est pas une formule, je le dis.
Effectivement, c'est assez intéressant de l'entendre. En même temps, comme le savent les auditeurs de la Tribune de l'Art, je ne mets jamais mes interlocuteurs en difficulté. Je pense que vous ne pourriez pas avoir un discours différent si vous pensez le contraire. Donc, voilà, en tout cas, je ne vais pas débattre avec vous sur ce sujet.
C'est la vérité.
En tout cas, j'ai vu que
je vous dis la vérité.
Parce que beaucoup en tout cas d'associations, et enfin on voit qu'il y a beaucoup de monuments qui ne sont pas en bon état et qui devraient être restaurés, qui ne sont pas restaurés, et il n'y a pas les budgets. Alors comment ça se passe? Comment ça se fait?
Mais vous voyez, pour moi, la question, c'est justement et précisément la question de la maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire que la restauration d'un monument historique, c'est une affaire compliquée. Et pour que les opérations voient le jour, il faut un maître d'ouvrage, il faut un élu, il faut un propriétaire qui décide de se lancer dans cette restauration. Et si ce propriétaire est tout seul, il n'osera pas se lancer dans cette restauration. Et donc c'est pour ça, c'est là précisément que notre mission peut être utile à ces propriétaires. Et je crois que si beaucoup de monuments ne sont pas restaurés, ce n'est pas faute d'argent, c'est faute de l'étincelle qui anime le maître d'ouvrage.
En tout cas,
c'est... En vérité.
Oui. En tout cas, on va passer à un autre sujet, mais c'est intéressant d'avoir votre opinion. Et on débattra certainement encore avec d'autres sur cette question. L'État a-t-il assez d'argent pour restaurer les monuments historiques, comme vous le dites? Ou en manque-t-il, comme le disent beaucoup, et comme malheureusement dans certains endroits, on a l'impression quand même qu'il en manque. Mais s'il n'en manque pas, c'est peut-être effectivement parce qu'il y a une organisation qui n'est pas forcément adaptée à la dépense et à dépenser l'argent.
Ouais. Et je précise quand même, pour être tout à fait honnête, que ça n'a pas toujours été le cas. Je pense qu'il y a une dizaine d'années, la situation financière des crédits monuments historiques était relativement inquiétante. Mais la situation a très notablement évolué, et en particulier, je crois que le plan de relance a été tout à fait bénéfique à la restauration des monuments historiques. Je sais pas, c'est pas une considération politique. Hein, c'est
non, on ne fera pas de politique, en plus, on sait bien que c'est des deux côtés.
C'est pragmatique. Et le plan de relance nous a donné l'occasion à tous les conservateurs régionaux de prendre un peu des paris et de montrer à nos administrations et aussi à nos collègues du ministère des Finances que lorsque nous prenions l'engagement de restaurer un monument, dans un temps donné, nous le faisions. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, c'est ce qui a déclenché la restauration de la cathédrale de Rennes.
Alors, justement, passons aux travaux maintenant. Alors, on ne va pas s'attarder sur la cathédrale de Rennes dont nous avons parlé ici et dont on pourrait lire l'article que j'ai écrit et voir le film que j'ai fait avec votre participation, la participation Cécile. Voilà. Quels sont les autres grands chantiers que vous menez actuellement en Bretagne? Les grands chantiers de restauration, de grands monuments, de monuments un peu rares ou de monuments un peu amusants ou de... Quels sont ceux dont vous aimeriez parler?
Alors, c'est difficile la question que vous me posez parce que j'ai fait un petit bilan des travaux que nous avons entrepris en 2014. Nous accompagnons en 2014 250 chantiers en Bretagne. Des petits chantiers à 1 000 euros et des gros chantiers à plusieurs millions d'euros.
Ce sont les chantiers que vous accompagnez en tant qu'assistance à maîtrise d'ouvrage ou tous les chantiers
que vous contrôlez? Tous chantiers confondus, y compris ceux que nous conduisons comme maître d'ouvrage. Alors, j'avoue que parmi les chantiers que nous avons aujourd'hui, il y en a un qui me tient à cœur, dont je suis assez... qui m'intéresse beaucoup, c'est le chantier que nous avons à la cathédrale de Saint-Brieuc, où nous avons, là encore grâce au plan de relance, fait des travaux sur le chevet, et puis il nous restait un petit peu d'argent, donc nous avons décidé d'étudier la restauration du chœur. Et donc ce chœur en granit avait été rejointoyé au ciment entre deux guerres, il avait un aspect sinistre et noirâtre, et nous avons, donc, comme c'est pas bon pour ces parements, nous avons décidé de purger ces joints ciment, de rejointoyer. Et au cours du chantier, nous avons découvert des badigeons dans des parties encore un peu masquées de l'architecture. Et nous avons essayé de restituer un badigeon ressemblant à celui que nous avons trouvé. Et nous avons fait des essais, c'était très long. Et on vient d'achever maintenant l'ensemble du chœur et du déambulatoire. Et nous avons maintenant aussi fait le bras nord du transept. Nous sommes en train de travailler sur la croisée et sur le bras sud. Et là, on va complètement aussi changer la physionomie de cet édifice qui était très sombre. Et on a eu d'ailleurs du mal à convaincre les usagers, la commission de diocésaine d'art sacré. Mais aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une belle réalisation.
D'autres exemples? Des châteaux, par exemple? Dans les châteaux que vous avez protégés il y a quelques années, là, est-ce qu'il y a certains qui ont pu bénéficier de travaux important de restauration, parce que souvent les châteaux sont en mauvais état?
Alors, on a fait des travaux, on a accompagné, là en assistance à maîtrise d'ouvrage, des travaux sur le château de Combourg, mais qui était déjà classé petite démo du siècle, mais qui est un monument insigne de la Bretagne. On a refait des travaux de couverture. On vient, avec les propriétaires, d'achever aussi des travaux sur le château de Quintin, qui est à côté de Saint-Brieuc, qui est un très beau pavillon du 17e, très belle architecture. Et donc, une architecture très monumentale, qui a d'ailleurs suscité l'intérêt de l'école de Chaillot, puisque l'atelier qui se passe tous les ans s'est déroulé cette année à Quintin. Donc, on a eu beaucoup de... Et puis, on ne peut pas parler de Bretagne sans parler un peu de la mer. Et donc, il y a aussi des chantiers très intéressants qui se déroulent actuellement sur le fort de la Conchée, dans la baie de Saint-Malo, qui est un fort Vauban, qui a servi malheureusement de mire pour l'artillerie dans les années 40, enfin, en 44, et donc qui a été presque très, très atteint par les bombardements, et qu'une association d'amoureux du patrimoine et d'amoureux de Vauban ont décidé de restaurer, et nous accompagnons pour ce projet.
Alors, il y a un sujet qui m'inquiète particulièrement, je ne suis pas le seul, et contre lequel on a l'impression que le ministère des Cultures, j'allais dire dans son ensemble, est un peu démuni, parce que ce n'est pas uniquement de lui, et qu'il y a une très forte volonté de l'État de le promouvoir. Je parlais de l'énergie éolienne et des éoliennes. Est-ce que vous avez beaucoup d'éoliennes en Bretagne? Il y a beaucoup de vent en Bretagne. Est-ce qu'il y a beaucoup de projets d'éoliennes? Est-ce qu'il y a beaucoup d'éoliennes? Et comment faites-vous pour vous opposer, s'il le faut, à des projets qui risquent souvent de dénaturer des monuments historiques ou des lieux historiques ou des paysages historiques?
Alors, pour être tout à fait honnête, je vais vous avouer, c'est pas pour me défiler, mais que ces questions d'ordre du paysage sont plus du ressort de l'architecte des bâtiments de France que de la conservation régionale. Mais bien évidemment, nous sommes en contact avec les associations de défense du paysage, avec la société la SPEF, avec les villes maisons françaises. Et donc, nous travaillons, par exemple, beaucoup actuellement, et c'est pas très simple, sur la zone des alentours du Mont-Saint-Michel, où un périmètre de protection modifié va être mis en œuvre. Il y a des éoliennes en Bretagne assez, je crois, parsemées sur le territoire. Il y a un schéma de développement éolien qui a été approuvé par le préfet de région, qui définit en réalité les zones les plus sensibles, les plus fragiles, dans lesquelles il n'est pas souhaité que des éoliennes s'installent. Mais je dirais que plus généralement, les promoteurs de ce genre d'industrie, puisque c'est une industrie, ont la prudence de s'écarter des zones protégées, et en particulier de se construire en dehors des abords des monuments historiques.
En Bretagne peut-être, pas partout. C'est pas le cas partout. Bon.
Mais c'est... Je dirais que le problème de l'éolienne, c'est une question d'échelle, c'est-à-dire que les outils dont nous disposons pour protéger les abords des monuments historiques, c'est les abords, justement, les 500 mètres.
Tout à fait, donc les éoliennes sont trop loin, c'est pour ça que vous n'avez pas forcément les outils pour le faire.
Et les éoliennes sont à une échelle dans le paysage, quand on a une éolienne de 140 mètres de haut.
Ça va même jusqu'à 200 mètres ou 180 mètres, 200 mètres de haut, plus haut que la tour triangle maintenant.
On est complètement désemparé devant l'effet sur le paysage, mais on n'a pas l'outil réglementaire qui converge.
Oui, c'est bien effectivement une chose qui me semblait, c'est que le ministère de la Culture, malheureusement, n'a pas les outils pour cela. Et vous n'y pouvez rien. Un point aussi sur lequel je souhaite que vous reveniez ou je souhaite que vous parliez, qui est important à mon sens, c'est la question du mobilier des églises. Il y a toutes les églises, et en Bretagne, je pense, ça ne fait pas exception. Il y a beaucoup de mobilier, beaucoup de tableaux, beaucoup de sculptures qui sont parfois en mauvais état, qui sont en partie classées, mais d'autres pas du tout. Comment est-ce que, et qui sont inaliénables, ce qu'on y dit souvent, comment est-ce que vous faites, premièrement, pour vous tenir au courant de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faudrait faire, première chose. Deuxième chose, pour informer les gens sur place, c'est-à-dire les prêtres, le clergé et la mairie, que ces biens sont inaliénables, qu'on ne peut pas s'en séparer, ce que font parfois certains élus ou certains prêtres indélicats. Et comment faites-vous ensuite pour la restauration? Quel est le rôle du conservateur des antiquités et objets d'art? Donc, il faudra peut-être en dire un mot de cette fonction. Et enfin, comment est-ce que on pourrait... Est-ce que en Bretagne, ces objets-là sont bien conservés ou pas? Sachant que la restauration, on peut employer dans les monuments historiques, ce n'est pas de votre fait, c'est la loi, on peut employer des restaurateurs qui ne sont pas des restaurateurs agréés, qui ont la formation comme dans les musées. La loi ne l'impose pas. Est-ce que vous faites attention à prendre des restaurateurs qui soient des restaurateurs sérieux? Je pense en particulier, alors ça vous concerne, puisque c'est un tableau que dont vous avez contribué à la redécouverte, c'est le tableau de Ribera, qui est exposé actuellement au musée des Beaux-Arts de Rennes. Donc c'est un tableau qui dépend de vous, puisqu'il était dans une église. J'ai cru comprendre qu'il avait eu une restauration il y a quelques années qui n'avait pas été complètement satisfaisante et qu'il avait plutôt un petit peu, disons peut-être pas abîmé, mais en tout cas qu'il n'avait pas arrangé. Alors je pense que vous n'étiez pas arrivé, vous, ni votre équipe, donc c'est pas vous qui êtes en cause, mais est-ce qu'il n'y a pas parfois un risque de restauration abusive sur certains tableaux, monuments historiques, comme on peut le constater parfois? C'est beaucoup de questions, hein, mais c'est toute la question des objets de musée, oui. Des objets d'église.
Et alors, je vais répondre à vos questions par la fin, le principal, qui est en effet ce tableau de Ribera qui a été retrouvé donc par le conservateur des antiquités objets d'art du Morbihan, et qui était d'ailleurs, jusqu'à une date tout à fait récente, considéré comme une copie du 19e de Ribera, et donc qui sans doute n'avait pas fait l'objet des soins qu'il mérite, et dont aujourd'hui on regrette un peu. Mais en fait, c'est grâce au travail du conservateur des antiquités objets d'art, de la conservatrice des monuments historiques Cécile Houlaine, que ce tableau a pu être, avec l'appui évidemment de nos collègues du musée de Rennes, en particulier Guillaume Caseroni, que ce tableau donc a pu être étudié et qu'on a déterminé que son intérêt et sa rareté. Et je dirais que, en fait, c'est toujours un peu le problème, c'est le problème de la connaissance. Et je dirais que aussi, on a cette chance aujourd'hui, dans notre service, et grâce à l'appui de nos collègues des conservateurs des antiquités objets d'art, d'avoir, je crois, une expertise qu'on aura plus de mal à prendre en défaut que peut-être on évitera les restaurations malencontreuses qui ont été faites par le passé. Et de la même manière que je vous ai dit que dans le domaine des immeubles, l'architecte des bâtiments de France était un peu celui qui nous alertait sur l'état des monuments, le conservateur des antiquités et objets d'art, dans chaque département, nous interpelle et nous sollicite justement lorsque des questions de ce type se posent.
Alors, un mot du conservateur des antiquités et objets d'art, qui a priori est une fonction, je reviendrai certainement dans une enquête, il faudrait faire une longue enquête, parce que c'est une fonction qui est un peu curieuse, parce que c'est une fonction qui est bénévole. Alors, dans certains endroits, peut-être pas chez vous, mais qui peut être bénévole, pas chez vous.
C'est pas bénévole véritablement. C'est bénévole, mais c'est défrayé. Bon, c'est-à-dire que ça permet pas de vivre, si vous voulez.
C'est ça, c'est défrayé, mais effectivement, la plupart du temps, ils font ça sur leur week-end, sur leur temps libre.
Oui, pas toujours.
Pas toujours. Non. Bon.
En fait, si vous voulez, pour le cas de la Bretagne, on a les quatre conservateurs des antiquités et objets d'art de Bretagne, sans parler de leurs conservateurs délégués, sont en fait dans le cadre d'un accord entre l'État et le Conseil général de chaque département. Payé par le Conseil général et avec une mission d'État. C'est-à-dire que le Conseil général et nous nous sommes mis d'accord pour demander à une personne dont nous estimions qu'elle en avait les capacités d'assumer cette mission de l'État. Donc le défraiement qui correspond à la mission de conservateur des antiquités objets d'art s'ajoute à son salaire de fonctionnaire territorial.
Et ce sont tous des spécialistes, des gens qui sont qui connaissent l'histoire de l'art ou
Ah oui.
Voilà. Oui, bah oui. Tous, non mais c'est pour ça. Je dirais que la Bretagne est exemplaire en tout finalement. Non mais c'est vrai parce que il y a d'autres endroits où on voit des conservateurs antiquités objets d'art qui sont effectivement très compétents et d'autres qui sont moins compétents. C'est pas de leur faute. C'est vraiment on leur a donné une fonction qui n'était pas parce qu'un conservateur des antiquités objets d'art effectivement a comme rôle de s'occuper des objets immobiliers.
Mais je voudrais pas non plus vous paraître présomptueux et je crois que tout spécialiste qu'on soit de l'histoire de l'art, on ne peut pas tout connaître.
Mais évidemment. Vous
voyez, ce qui est important, c'est d'avoir des connaissances complémentaires. Je pense au cas du Finistère, par exemple, dont le dernier, dernier recrutement, c'est M. Yann Selton, qui lui est spécialiste des archives. Bon, et c'est très précieux pour nous, vous voyez, d'avoir dans une équipe à la fois quelqu'un qui connaît bien les objets d'art et à la fois quelqu'un qui est plus familiarisé avec la recherche documentaire en archives. Vous voyez. Donc après, on essaie de faire des équipes et de se compléter avec les conservateurs des monuments historiques. On ne va pas dire qu'on connaît tout, ce ne serait pas honnête.
Alors donc, vous avez des équipes qui fonctionnent effectivement bien pour... Et alors comment sensibiliser les maires, les prêtres à la conservation du patrimoine, à leur inaliénabilité et à leur restauration nécessaire parfois?
Nous avons la politique d'aller beaucoup sur le terrain. et de rencontrer les élus et les affectataires chez eux, enfin je veux dire dans l'édifice. Et nous avons aussi pour politique de ne pas séparer les objets de l'immeuble. Pour nous, ça constitue un tout qui a une valeur patrimoniale en soi. Ce qui n'a pas toujours été le cas dans l'histoire du service.
Non, mais je pense que c'est encore une bonne pratique.
Et donc aujourd'hui, par exemple, lorsqu'un propriétaire, un maire veut restaurer son église, nous l'encourageons aussi à restaurer le mobilier. C'est pas toujours possible parce que c'est quelquefois coûteux et bon, c'est quelquefois long, etc. Mais aujourd'hui, nous présentons des objets, enfin, il nous paraîtrait malencontreux de restaurer des objets dans une église dont les toitures fuient et vice versa, de garder des objets, je pense par exemple aux rétables, qui sont des objets considérables, très importants, assez coûteux à restaurer. Donc d'avoir des rétables en très mauvais état dans une église restaurée. Voilà. Donc aujourd'hui, notre politique en Bretagne, c'est de conseiller aux élus des restaurations, des campagnes de restauration globale. Alors ça ne se fait pas tout de suite, tout n'est pas réussi du premier coup, mais c'est notre ligne de conduite.
En même temps, si vous avez une église qui est en mauvais état et à l'intérieur, y a un tableau qui est en encore plus mauvais état parce qu'il pleut dessus, il faut peut-être de temps en temps au moins le mettre à l'abri et peut-être le restaurer quand même.
Bien sûr. Ouais. Oui. Non, mais il faut avoir toujours en tête l'objectif final de notre mission qui est la conservation du patrimoine. C'est ce que nous... Et bon, avec les moyens dont on dispose, mais parfois nous conseillons à des maires de mettre en place des couvertures provisoires en acier parce qu'ils n'ont pas les moyens ou alors le temps du projet n'est pas encore abouti. Voilà, donc après, je dirais qu'on n'a pas de religion toute faite, on étudie les cas en fonction de la situation qui se présente.
Alors est-ce que vous pourriez nous dire, par exemple, parce que je suppose que en plus de les restaurer, de regarder s'ils sont en bon état ou pas, vous en découvrez, parce qu'on découvre toujours des objets. Est-ce qu'il y a quelques objets récemment que vous avez découverts qui méritent d'être mieux connus? Des tableaux, par exemple? Parce que ça, je vous pose la question à brûle pour point, donc c'est parfois difficile de ressortir un exemple, mais est-ce qu'un exemple vous vient à l'esprit?
Moi, je me souviens, ce n'est pas un tableau, mais je me souviens d'une découverte extraordinaire que nous avons faite un jour dans une petite église du Trégor. Nous la visitions avec le maire, nous sommes allés dans la sacristie, bien sûr, dans ce cas-là, on demande toujours au maire d'ouvrir les placards. Et puis ensuite, après avoir ouvert les placards, nous sommes montés dans le grenier de la sacristie, et sous une vieille couverture, nous avons trouvé deux choses, une très amusante, une boîte à crâne, c'est une sorte de boîte reliquaire dans laquelle on mettait le crâne des défunts, et à côté de la boîte à crâne, nous avons trouvé un reliquaire en argent massif du XIVe siècle avec des cabochons de cristal de roche. Une pièce tout à fait extraordinaire que nous avons donc tout de suite mise à l'abri et sur laquelle nous avons interrogé des spécialistes de l'orfèvrerie et qui nous ont évidemment très vite convaincus qu'il s'agissait d'une pièce inestimable. Et c'est vrai que tous les jours, nous découvrons encore des choses extraordinaires.
Et cette pièce d'argenterie très ancienne, elle se trouve où maintenant ?
Elle est conservée très, très précieusement dans la mairie du village concerné.
D'accord, elle peut être vue, elle est présentée au public ou elle est...
Je ne crois pas qu'elle soit présentée au public, non, parce qu'elle n'est pas forcément présentée dans les conditions de sécurité.
Est-ce que ce ne serait pas, faudrait pas le coup, justement, ça pose aussi la question, mais on va bientôt arrêter parce que je sais que vous avez un train à prendre, donc on terminera à 20h15 exactement. Mais c'est vrai qu'on aimerait vous poser beaucoup de questions, par exemple tous ces objets qu'on découvre et puis qu'on peut être restaurés, mais qu'on ne peut pas exposer parce qu'ils sont dans des églises fermées, parce qu'on ne peut pas les voir. En même temps, c'est bien qu'ils restent parfois dans l'église où ils étaient depuis très longtemps. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer les montrer ? Est-ce qu'il a été publié, par exemple, cet objet, ou pas ?
Non, je ne pense pas qu'il ait été publié. En revanche, je vous donne un autre exemple. C'est vrai qu'on a la chance en Bretagne d'avoir encore beaucoup de pièces de favoris d'Ancien Régime qui ont survécu aux fontes, tant aux fontes, disons, royales que révolutionnaires. Et on a, par exemple, dans le Trégor, un trésor exceptionnel dans l'église de Saint-Jean-du-Doigt, à côté de Morlaix. Et ce trésor était depuis plus de 30 ans dans les coffres d'une banque à Morlaix. Et nous sommes en train, avec la mairie, d'aménager dans une pièce sous le clocher, un lieu sécurisé, que nous avons montré à notre spécialiste de la sécurité du ministère de la Culture, dans lequel pourront être présentées ces pièces d'orfèvrerie tout à fait extraordinaires.
Écoutez, j'espère que quand ça sera le cas, vous nous préviendrez, on pourra en faire une brève et en parler. Merci d'avoir été avec nous, M. Henri Masson, conservateur régional des monuments historiques à la DRAC de Bretagne. Et je donne rendez-vous aux auditeurs de la Tribune de l'Art la semaine prochaine pour une émission qui sera enregistrée avec, on change complètement de domaine, puisque ce sera Harry Bellet, notre confrère Harry Bellet du Monde, que je pense les auditeurs de la Tribune de l'Art connaissent bien, qui sera notre invité. Merci et à la semaine prochaine.
Merci beaucoup de votre accueil qui me fait très grand honneur.
Nous étions très heureux de vous avoir. Au revoir.
Merci, monsieur.